Donc là, maintenant, je vais parler donc de l'éducation supérieure. Donc, où est-ce que j'ai mis mon... Voilà, j'ai mis mon... Donc, la croissance de l'éducation supérieure. Donc, déjà, je vais vous montrer d'ailleurs une première chose. C'était le Lisbonne, le cri d'alarme de Lisbonne. Lisbonne, c'était l'idée de dire on investit moins que les Américains en recherche-développement, mais par ailleurs, vous voyez qu'on investit moins en éducation supérieure. Par exemple, en 99-2000, qui était le moment où il y a eu le Lisbonne, les États-Unis investissaient, mais je vous donnerai des chiffres beaucoup plus actualisés après, les États-Unis investissaient 3% de leur PIB dans l'éducation supérieure. Alors évidemment, je ne dis pas ce qui est privé, ce qui est public, hein, d'accord, bonne question, contre 1,4% dans l'Union européenne de l'époque. Hein, et plus de 37% de la population américaine entre 25 et 64 ans avait un diplôme universitaire contre 23,8% de la population au sein de l'Union européenne. D'accord. Donc ça, c'était un peu un des cris d'alarme, ça, puis la recherche-développement, où on dépensait plutôt 2%, 2,5% contre 3, plus de 3% aux États-Unis en recherche-développement. Donc les gens ont dit, voilà, il y a quand même un énorme manque à gagner, puisque si on croit dans le modèle schumpeterien, on se dit, ben, il faut innover plus et il faut davantage d'éducation supérieure pour... Donc là, c'est en termes de stock de capital. Là, je regarde le stock et on dit, le stock est inférieur chez nous que ce qu'il est aux États-Unis. D'accord. Alors, faut-il s'en inquiéter? Eh bien, vous avez déjà des réponses aux questions que je commence à poser. Hein. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'il y ait le stock de capital, que le niveau d'éducation soit plus faible chez nous qu'ailleurs? Oui, si vous croyez que la croissance dans les pays développés repose sur l'innovation. Ce n'est pas juste la quantité de capital humain qui est important. Si vous croyez évidemment dans le modèle néoclassique, vous pouvez vous dire, non, ce qui compte, c'est que tout le monde soit un peu d'éducation. Mais si vous croyez dans le modèle schumpeterien pour pouvoir rattraper et innover à la frontière, il faut de l'éducation supérieure. Ben là, vous savez que c'est un problème que chez nous, les universités ne soient pas de la même qualité que les universités aux États-Unis. D'accord. D'un autre côté, évidemment, c'est ce qu'on appelle les tigres. On appelait ça les tigres asiatiques, c'est-à-dire Hong Kong, Singapour. Il y avait Hong Kong et Singapour en particulier à l'époque, et puis et Taïwan. Et puis après, il y a eu la Chine. Eh bien, on connut une forte croissance grâce à l'investissement en investissant dans l'éducation primaire, secondaire surtout. Donc, mais ça va tout à fait, c'est tout à fait en accord, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, quand vous êtes une économie avancée, c'est important d'investir dans le supérieur au niveau spécialement doctoral. Évidemment, quand vous êtes des pays en rattrapage, comme ces pays étaient, ils ont déjà connu une forte croissance en investissant dans le primaire, secondaire. Mais ils ont fait quand même mieux que d'autres pays qui étaient des pays à niveau de revenus équivalent après la guerre, notamment en Amérique latine, qui eux n'ont pas investi en éducation primaire, secondaire, qui donc n'ont pas connu les taux de croissance de ces pays-là. Alors, il y a d'autres raisons qui font qu'ils n'ont pas connu les mêmes taux de croissance. Mais l'éducation est certainement une raison qui explique pourquoi les pays asiatiques ont fait mieux que les autres, parce que vous aviez quand même en Corée, l'idée qu'il fallait être éduqué. Et d'ailleurs, je vous avais dit la dernière fois que les guerres pouvaient expliquer l'éducation. Dans le cas coréen, c'est le fait d'être envahi par les Japonais. Ça pouvait dire que ça vous a convaincu les Coréens de suivre des programmes d'éducation, exactement comme nous, après Sedan, il y a eu Jules Ferry, après l'invasion japonaise, on peut dire que les Coréens, ils étaient archi-motivés pour éduquer tout le monde. Et ça a eu un bon effet sur le rattrapage des Coréens, certainement. Ça a été un des éléments importants. Donc maintenant, l'approche, donc, comme je dis, c'est innovation frontière versus imitation. Innovation frontière devient de plus en plus un levier de croissance à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Par conséquent, plus un pays ou région se rapproche de la frontière, plus il doit investir dans la recherche. Donc l'économétrie de pays, je vous l'avais déjà montré. Mais l'économie de pays a un gros problème, c'est que c'est des corrélations. Vous ne pouvez pas avoir vraiment d'instruments. Quand vous faites de l'économétrie entre pays, c'est quand même important parce que c'est quand même utile de savoir que les comparaisons de pays vous donnent ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas instrumenter. Et quand j'ai fait des études également, je vous parlerai la prochaine fois d'inégalité et d'innovation ou d'inégalité et de croissance, j'ai fait d'abord ça sur données de pays. Mais sur données de pays, l'économétrie est épouvantable. Vous n'avez pas d'instruments. Donc vous pouvez pas. Et en plus, dès que vous mettez ce qu'on appelle, je corrige pour la spécificité des pays, on appelle ça des effets fixes, c'est un jargon épouvantable. Mais ça veut dire, en gros, la Corée, elle a aussi des particularités coréennes, tel pays a tel particulier, vous corrigez pour ces effets-là. Et en général, quand on corrige pour ces effets-là, tout s'en va, comme ici. Et en fait, il faut contrôler pour des spécificités régionales, parce que vous avez trop peu de données, et contrôler pour les spécificités de pays, c'est que vous mettez trop de contrôle pour trop peu de données. Donc, quand vous ne pouvez pas faire une bonne économétrie, vous avez trop peu de données, vous mettez beaucoup de contrôle, et vous perdez tout. Et donc, c'est important d'avoir beaucoup de données. Comme ça, on peut contrôler pour les effets fixes, on garde, et en plus, on a des instruments. Et c'est pour ça que je suis allé dans des données régions américaines, vous voyez. J'ai toujours fait comme ça, moi. Ma manière de travailler, c'est de regarder sur les trucs de pays pour avoir un peu une idée. D'accord. Mais ensuite, pour faire de l'économétrie convaincante, il faut aller plus au niveau micro, ou région, firme, secteur, et de voir si j'ai les mêmes relations à ce niveau-là que celles que j'ai entre pays. Et quand je vois que j'ai à peu près les mêmes relations tout le temps, je sens que j'ai quelque chose que je peux vous présenter. Sinon, je sens que je n'ai pas quelque chose de solide. Voilà. En gros, c'est ça. Aucun des trucs n'est parfait. Chaque truc a ses désavantages, mais c'est en essayant plusieurs et de voir que ça va toujours dans le même sens que je me dis « je tiens quelque chose qui est dans le bon sens ». Alors, l'économétrie sur les États américains, ou comment le clientélisme fait le bonheur de l'économètre. J'en avais parlé dans la session inaugurale, et je reviens là-dessus. C'est merveilleux. Alors, c'est épouvantant pour les gens, c'est terrible d'avoir du clientélisme, de la corruption, des incompétents, etc. Mais les incompétents et les corrompus font le bonheur des économètres. Voilà, les économètres adorent les gens incompétents. Et alors, particulièrement, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir des endroits où vous avez de bonnes données. Vous voyez, on est très bon pour collecter des données et très mauvais pour gouverner. Vous voyez, ça, c'est génial, génial, génial. J'avais fait la blague à ma leçon inaugurale. On va pouvoir faire des travaux sur la fiscalité et la croissance en France et la fiscalité de l'innovation. Formidable, parce qu'on a l'INSEE qui est génial. On a plein d'institutions extraordinaires et des politiques qui sont, voilà, pas forcément évidentes à tout le monde. Bon, mais voilà. Donc je regarde l'analyse sur les États américains. On a 26 cohortes, des cohortes, vous savez, c'est-à-dire qu'on suit quelqu'un de la naissance à l'âge de 26 ans. Et on le suit combien dans telle année, il était dans tel état. Combien l'État a dépensé en éducation dans cette année d'éducation. Comme ça, on sait à peu près combien d'argent il a eu à chaque étape de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire de l'État pour son année d'éducation. Et donc ça, c'est très intéressant. Et on a toutes les cohortes depuis la guerre jusqu'à maintenant. Et on les suit, quoi. Année par année, par année, par année. Donc ça, c'est beaucoup de données. Et c'est sur 48 États américains. Vous voyez, donc ça vous en fait des données. Là, vous en avez beaucoup. Donc, vous pouvez corriger par le fait que le Minnesota, c'est le Minnesota, contrôler pour le fait que le Mississippi, c'est le Mississippi, et que chacun est un peu à ses bizarreries. Vous pouvez contrôler pour ça, et malgré tout, vous avez une économétrie qui est très robuste. Voilà. Donc, c'est le premier avantage. Vous avez une grande abondance et une relative homogénéité des données, parce qu'ils ont beau être différents, ils ne sont quand même pas trop différents non plus. Ils ont la même langue, il y a une mobilité, etc. La deuxième, c'est qu'il y a de meilleurs instruments, et je vais montrer que d'abord, il y a des instruments. Je peux justement utiliser ce que j'appelle le clientélisme pour instrumenter. D'ailleurs, je me rends compte maintenant que j'aurai à peine le temps d'arriver jusqu'au bout. C'est à chaque fois pareil. J'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Maintenant, j'en ai trop. Je vois très bien l'heure maintenant. Elle me joue des tours, l'heure, vous savez. Je n'ai pas la notion du temps. Donc, de meilleurs instruments. En fait, on a des instruments. Je vais vous en parler. C'est là que le clientélisme va servir d'instrument. L'inconvénient, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de migration. Et pourquoi la migration est un problème? Pour la chose suivante. Il se peut que simplement, ça soit bon d'investir en éducation supérieure en Californie, parce que l'État de la Californie est plus avancé et que l'innovation est bonne. Mais il se peut aussi que si j'investis en éducation supérieure trop en Alabama, le type de l'Alabama, il va vouloir aller en Californie parce que c'est là que ça se passe et que c'est intéressant. Et donc, il va s'en aller de l'Alabama. Et allez, ça, c'est une raison en plus pour laquelle je ne veux pas, à l'Alabama, donner la priorité à l'enseignement. Donc, il y a la partie qui vient de la migration et il y a la partie que j'ai de toute façon, même sans la migration. Et ce qui est bien, c'est que je peux les décomposer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une raison en plus pour la migration. La migration est un élément de plus pour laquelle je ne voudrais pas, en Alabama, investir en éducation de grade, parce que le type, il va se barrer, il va aller en Californie, et donc moi, je n'ai rien du tout. Et moi, je suis en Alabama, et ça bénéficie à Californie, moi, ça ne me profite pas, à ma croissance, à moi. D'accord? Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, les migrations. Alors qu'entre pays, il y a des migrations, mais évidemment beaucoup moindres qu'entre entre États américains, où la force de travail est très mobile. Je peux librement émigrer d'un État à un autre, et c'est la même langue et j'ai aucun problème, d'accord? Alors là, c'est là que c'est en anglais, je suis désolé, mais je vais vous le dire en français, je vais traduire ça après. Voilà l'idée de l'instrument. L'instrument, c'est la chose suivante. L'instrument, c'est ça, voilà. Vous voyez, l'instrument, c'est ça. Vous avez trois États, la Géorgie, le Mississippi et l'Alabama. Et ça, je regarde les dépenses en université de recherche au niveau troisième cycle. C'est le nombre de milliers de dollars par personne dans l'État. D'accord? Combien je dépense? Et c'est très intéressant parce que jusqu'en 65, ces États dépensent à peu près pareil, un petit peu plus la Géorgie que les autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle les comités d'appropriation aux États-Unis. C'est-à-dire que vous savez, aux États-Unis, beaucoup de choses sont décidées par les États américains. Mais il y a des choses qui sont décidées au niveau fédéral. Et au niveau fédéral, notamment, ils décident des autoroutes. Vous voyez, les autoroutes aux États-Unis, enfin, les interstates, c'est décidé au niveau fédéral, beaucoup. D'accord ? Et ils disent, bah, tiens, il faut construire des autoroutes en Alabama ou au Mississippi ou au machin, et ça, ils décident. Ça, c'est une chose qu'ils disent. Mais l'essentiel de l'argent qu'ils allouent, c'est pour l'éducation, en fait, et pour l'université. Et donc, ils doivent décider où est-ce qu'ils vont les faire, les universités. Eh bien, évidemment, et c'est là qu'arrive le clientélisme. Monsieur, c'est mon copain, celui-là, je crois, mais Listerhill, vous voyez, Listerhill, Listerhill, c'est un démocrate d'Alabama. Alors, je fais à chaque fois la blague. En général, démocrate, ça a l'air plus progressiste que républicain. Mais à cette époque-là, en Alabama, c'était pas génial. Hein. C'était, vous voyez, les années des civil rights, des droits civiques. Pas terrible. Hein. En fait, c'était presque pire, parce que les démocrates disaient pour que ce soit l'État qui décide, que les républicains à l'époque étaient pour que ce soit le fédéral qui décide. Le fédéral était quand même plus sympa en Alabama que l'État de l'Alabama. Bon, je ne veux pas vous ramener dans l'époque de l'Alabama à l'époque, c'était pas génial, si vous n'étiez pas de couleur blanche. Mais en tout cas, M. Listerhill devient, Listerhill qui est sénateur de l'Alabama, il devient tout d'un coup, à la tête du comité d'appropriation fédéral pour l'allocation des fonds fédéraux. Alors évidemment, M. Listerhill, il veut être réélu en Alabama. Donc il veut pouvoir dire à l'Alabama, je vous ai donné quelque chose, qu'est-ce qu'il peut donner ? Il ne peut donner que ce qu'ils peuvent donner. Et même si ce n'est pas utile de donner des universités, il va quand même donner des universités. Et c'est là que le clientélisme sert d'instrument. C'est ça mon instrument. Et c'est un merveilleux instrument. Voilà. L'instrument pour l'éducation, les collèges deuxièmes qui vont jusqu'à 2 ans et 4 ans après le bac, ça c'est plutôt de savoir si la personne en charge de l'éducation dans l'État correspondant et a dans son district, parce qu'il est élu, il a ou pas un collège qui va 2 ans après le bac ou 4 ans après le bac. Ça aussi, c'est un merveilleux instrument. Donc, c'est la politique et le clientélisme qui est l'instrument. Et c'est un merveilleux instrument. Voilà, ça marche très, très bien. On voit que dès que monsieur... Ça, c'est les degrés. C'est-à-dire que, évidemment, quand monsieur Listerhill est devenu... grâce à monsieur Listerhill, ça a fait beaucoup plus de gens avec des degrés professionnels en Alabama par rapport au Mississippi. Et alors qu'avant, c'était pratiquement pareil. Vous voyez, là, l'Alabama est au-dessus, vient vraiment au-dessus du Mississippi. Après, ça redevient pareil. Donc, c'est-à-dire qu'il dépense plus en éducation et ça a des effets sur les degrés, sur le nombre de diplômes délivrés. Et donc, il a eu un effet sur l'Alabama, ce monsieur. Maintenant, c'était peut-être pas la meilleure allocation. C'était peut-être mieux de mettre cet argent en Californie, dans le Massachusetts, ou à l'Alabama, dans le primaire. Mais lui, il a mis là où il pouvait, qui était l'éducation, la research education. Alors qu'en Alabama, c'était comme le Brésil, il aurait plutôt fallu éduquer tout le monde bien au niveau primaire, secondaire. Mais lui, ce qu'il pouvait donner, c'était les allocations. Vous voyez, vous comprenez comment ça marche ? Donc, alors là, je regarde l'effet sur la croissance de M. Listerhill. Alors, je regarde l'effet sur la croissance d'avoir plus de dépenses en research education. Et vous voyez que ça augmente la croissance beaucoup plus dans les États proches de la frontière, c'est la ligne bleue foncée, que dans les États loin. Pourquoi ça monte et ça descend ? Parce que là, je regarde l'effet d'une augmentation temporaire. Mais Listerhill est resté 5 ans. Je regarde les effets sur les différentes cohortes et les cohortes s'additionnent. Le haut de la courbe, c'est quand toutes les cohortes bénéficient de M. Listerhill. Et puis à la fin, il n'y a plus que les cohortes qui étaient les plus tardives. Et puis là, c'est les cohortes qui avaient presque terminé avec M. Listerhill. Et ça, c'est toutes les cohortes se retrouvent. Toutes les cohortes qui interagissent, ou qu'elles aient commencé ou qu'elles aient terminé, elles se retrouvent en même temps. Et c'est là que l'effet sur la croissance est le plus important. Mais ce qui est important, c'est que la courbe bleu foncé, c'est dans un état proche de la frontière. Les états bleu clair, c'est les états loin de la frontière. Donc investir plus en éducation supérieure, recherche, ça stimule plus la croissance dans les États américains proches de la frontière. Mais là, j'ai instrumenté, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'instrument de la présence ou pas dans un comité d'appropriation. Et ça, c'est le contraire, c'est les 2 ans après le bac. Vous mettez l'accent sur 2 ans après le bac, eh bien, ça stimule la croissance dans un État loin de la frontière. Et là, c'est très légèrement négatif, mais en fait, c'est essentiellement zéro dans un État près de la frontière, parce qu'en fait, vous supposez que si vous faites ça, vous enlevez à l'éducation au niveau vos recherches. C'est pour ça que c'est un effet très légèrement négatif. Voilà. Et donc, si vous voyez l'effet très différent. Et donc, il y a vraiment cet effet-là très, très fort. Vous voyez, je vois un effet deux fois plus important sur la croissance quand j'investis sur l'éducation-recherche dans un État loin de la frontière, qui est à la frontière, Californie, Massachusetts, que si je suis dans un État loin comme l'Alabama, Mississippi. C'est l'effet est beaucoup plus faible. Donc, l'économétrie sur les données de pays, et ça, celle sur les États américains montre qu'investir dans l'éducation plus avancée stimule davantage la croissance de la productivité dans les pays ou États plus proches de la frontière. Inversement, se concentrer sur l'éducation primaire, secondaire et le premier cycle universitaire stimule davantage la croissance dans des pays ou États américains plus loin qui sont, eux, en rattrapage. Donc déjà, ça, c'est déjà une chose d'important et qui est voilà, une règle qui est quelque chose de très important. Nous, en France, nous avions un système qui était comme celui-là, c'est-à-dire primaire, secondaire, très bien. On avait les grandes écoles. Bon, premier cycle universitaire, pas terrible. Enfin, disons que c'était OK pour quand on était à l'époque des 30 Glorieuses. Mais maintenant que nous avons terminé les 30 Glorieuses, nous devons nous doter d'universités qui sont très bonnes et de rapprocher les universités des grandes écoles. Et c'est là qu'est toute la réforme universitaire. Donc maintenant, j'arrive à la gouvernance des universités. J'ai encore une demi-heure. J'ai un peu plus qu'une demi-heure. Je voudrais vraiment arriver jusqu'au bout. Je voudrais parler de la gouvernance des universités. Alors là, la question, c'est quoi? Est-ce que des universités gouvernées différemment performent différemment? En termes de performance de recherche, par exemple, en termes d'impact sur la croissance. J'aurais dû mettre aussi en termes d'insertion sur le marché du travail, d'une dimension très importante de l'université. D'accord? Et dans le rapport que j'ai fait pour Pécresse, je parlais beaucoup également d'insertion sur le marché du travail. Et puis, alors, il y a évidemment l'idée de l'autonomie des universités. Est-ce que, par exemple, je veux parler d'autonomie budgétaire, c'est-à-dire chaque université doit avoir son budget? Est-ce que je parle d'autonomie des ressources humaines, c'est-à-dire c'est l'université qui décide qu'elle doit embaucher, pas embaucher? Il y a par exemple tout un débat à Paris, en France, sur le CNU. Vous savez, le CNU qui nomme les professeurs. Moi, je suis pour la disparition du CNU. Je pense que le CNU devrait disparaître. Alors, je sais que ça pose tout un problème, puisque les professeurs sont ce statut de fonctionnaire. Donc, comment on nomme un fonctionnaire? Mais je pense qu'il faut préparer le terrain pour une disparition du CNU. Ça devrait être les universités elles-mêmes qui décident qu'elles veulent embaucher et pas embaucher. Pourquoi je dois avoir un comité national où, en plus, il y a beaucoup de lobbying? Vous savez comment ça se passe, le CNU. C'est-à-dire qu'on dit, ah tiens, tu me prends pas celui-là, je te boude. Tu me prends celui-là, je te boude pas. Enfin, c'est vraiment des négociations. Voilà. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Il y a des choses très bien, mais le CNU, c'est quand même vraiment le corporatisme. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que chaque université puisse embaucher les gens qu'elle veut embaucher, quoi. Donc, ça, c'est important. Le choix d'équipement, est-ce que ça doit être l'université ou est-ce que c'est au niveau central que ça doit se décider? Le choix des programmes, qui doit décider? D'accord? Et donc, l'idée de l'autonomie, il y a différentes mesures d'autonomie. Donc, ça, c'est tout ça qu'on parle de gouvernance. C'est en particulier, est-ce qu'on met plus ou moins d'autonomie sur ces dimensions-là? D'accord? Et alors là, je l'ai fait en anglais, mais je vous explique ce que c'est le Shanghai. Il y a eu des classements. Alors, je sais que ça a été très critiqué. Les universités, il y a eu des classements. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup de gens ont dit, Shanghai, c'est pas sérieux, parce qu'on mélange les torchons et les serviettes. C'est-à-dire qu'on mélange les publications, et d'ailleurs, surtout dans les sciences dures, et pas tellement dans les autres, donc c'est déjà le poids qu'on donne aux uns aux autres, c'est un peu arbitraire, donc c'est tout à fait juste. Et puis l'autre, c'est de dire, on mélange le fait d'avoir ou pas des prix Nobel, aux publications. Donc, comment on peut mélanger l'un et donner du poids à l'un, donner du poids à l'autre? Donc, c'est tout à fait valable. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que les classements sont à peu près les mêmes quand on prend, par exemple, des indices comme le Times, qui le fait différemment, ou bien on regarde juste les publications et l'impact des publications. Donc, si on n'aime pas Shanghai, on dit j'oublie Shanghai et je regarde le nombre et l'impact des publications, c'est-à-dire les citations des publications. Et ça, ça vous donne une métrique assez semblable, en fait. Voilà. Donc, en gros, Shanghai, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, quand on fait Shanghai, sur ce diagramme, j'aimerais que vous regardiez ce diagramme, parce qu'il est fait de la manière suivante. Comment il est fait? Je dis, voilà, je fais la somme, il y a des indices Shanghai. Si, par exemple, je regarde les 100 meilleures universités. Donc, je dis la première, elle a 100. La deuxième, elle a 99. La troisième, elle a 98. Et la centième, elle a 100. Et tous les autres ont 0. Et puis, je fais la somme de mes universités en France. Si, par exemple, en France, il y en a une qui a 20 et une autre qui a 30. J'ai un classement de 5, j'ai 50. J'ai le chiffre 50. Je divise par la population. Et ça me fait un nombre, d'accord? Et je compare ce nombre au nombre américain, que je normalise à 100. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me donne le score de la France. C'est-à-dire que je fais la somme des nombres Shanghai de mes universités, je le divise par la population et je compare au même chiffre américain et je fais en sorte que l'Amérique arrive à 100. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait mon chiffre, vous voyez, c'est comme ça que je calcule. Donc l'Amérique, elle est à 100, vous voyez, exactement, et la France, elle est là. Vous voyez, regardez, on est loin derrière, hein. Ça, c'était il y a 5 ans. Hein. Et regardez le Massachusetts, ils sont très, très bons. Ça, ce n'est pas un pays. Hein. C'était la République où j'étais avant, la République du Massachusetts. La Suisse est très bien. Vous voyez que la Suisse sont très, très bons. Hein. La Suède est très bonne. Hein. Là, c'est le Royaume-Uni. Donc ça, c'est un peu mieux que nous. C'est à peu près niveau US, les Américains, les Royaumes, pratiquement comme États-Unis, mais États-Unis est moins bon que la Suisse, c'est très intéressant. Hein, avec ce classement-là, ça c'est les meilleurs 100, hein, Mais si je fais les meilleurs 50, là, les Américains sortent beaucoup plus. Et vous voyez, l'Italie est derrière nous, et l'Espagne, elle est, là, on ne la voit même pas, vous voyez. Donc, c'est intéressant de se poser cette question-là. Vous avez dit, si vous n'aimez pas Shanghai, vous pouvez faire la même chose avec les brevets et les citations des brevets. Vous aurez le même genre de, vous aurez le même genre de classement, d'accord. Donc, c'est intéressant déjà de savoir où nous sommes. Où sommes-nous? On est là. Et pourquoi c'est important de montrer des classements? Parce que je pense beaucoup que, je vous avais dit la dernière fois, que je, bon évidemment, je vous ai parlé de la concurrence militaire pour réformer. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des guerres pour réformer et pour s'améliorer. Je pense que montrer des choses comme ça, ça remplace les guerres. C'est-à-dire, on est en concurrence avec d'autres et on ne veut pas être les derniers de la classe, quoi. Donc, on veut, et je crois que c'est ce qu'on appelle le benchmarking en anglais, c'est-à-dire la comparaison internationale. Et je crois que maintenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut se comparer aux autres et de dire, ben voilà, je suis là, je voudrais être davantage mieux classé, etc. Je crois que c'est très important. Alors ça, c'est une figure qui vous dit la performance, c'est-à-dire sur les 100 premières. Donc, je mets les top 100. Alors, vous voyez, les top 100, les US sont là. Donc, quand je regarde le 100, donc, c'est-à-dire que là, j'ai regardé la meilleure Shanghai, je lui donne 100. La deuxième, je lui donne 99. La troisième, je lui donne 98. La centième, je lui donne 1. Et après, je leur donne 0. D'accord ? Et je vois qu'à peu près dans les top 100, eh bien, je retrouve, ça c'est les chiffres de ce que j'avais fait tout à l'heure. Vous voyez, le Royaume-Uni est à 86, presque autant que les Américains. Et nous, la France, on est à 15. Vous voyez ce que je veux dire? On est très, très loin derrière. Mais par contre, la Finlande, les Scandinaves dans les top 100 sont pas mal. Hein, les Pays-Bas sont pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et la Suisse, elle est devant les États-Unis. Quand on regarde les top 100, la Suède, la Norvège est très bien. Vous voyez, c'est intéressant. Mais par contre, je peux regarder les top 50. Top 50, je regarde les très, très bons. C'est-à-dire que je donne la note 50 au meilleur, 49 au deuxième, et à partir de la 50e, je mets 0. D'accord ? Eh bien là, vous voyez que c'est très intéressant quand je fais top 50, parce que je vois que les US, donc je les ai normalisés à 100, et je vois que là, ils sont devant tout le monde. Les États-Unis sont devant tout le monde, là. Quand il s'agit des très, très, très bons, vous voyez ce que je veux dire ? Et alors arrive quand même, le Royaume-Uni est quand même encore proche des États-Unis, mais vous voyez que la Suède, là, n'apparaît pas. Les Scandinaves n'y sont pas vraiment. Donc, les Scandinaves sont assez bons au niveau 100, vous voyez. Mais moi, j'aimerais déjà qu'on soit bon au niveau 100. Donc, moi, je dis déjà, le modèle scandinave, c'est déjà très bien. Je serais déjà très, très content d'être au niveau 100. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore au niveau 100. Et alors, évidemment, quand vous arrivez au numéro 500, là, vous mettez tout le monde. Et alors là, évidemment, arrive la France, arrive tout le monde. Là, on arrive, là, vraiment, top 100, 200, top 200. Là, la France arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vous donne à quel niveau nous sommes et nous ne sommes pas. C'est quand même important de savoir où nous sommes. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. Et donc, ça vous donne un peu l'idée de performance de recherche des universités. Évidemment, vous pouvez juger l'université en termes de performance de formation des étudiants. Hein. Maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce qui détermine la performance des universités? Et là, on peut regarder, eh bien, il y a d'abord les dépenses par étudiant. L'argent est le nerf de la guerre. Là, j'ai représenté le classement Shanghai et là, j'ai représenté la dépense par étudiant. Alors, vous voyez que les US dépensent beaucoup par étudiant, un peu moins la Suède, donc eux, ils sont à 24 000, à 20 000. Les US sont autour de 35 000 et la France, elle est en dessous de 10 000, là, vous voyez. Mais vous voyez que quand même, l'argent est le nerf de la guerre. Sauf que les États-Unis dépensent beaucoup par rapport aux performances qu'ils ont, vous voyez. C'est beaucoup trop d'argent dans les frais universitaires, inutile à mon avis. Et par contre, les Scandinaves, eux, ils dépensent efficacement. Ils arrivent à des performances, vous voyez, en termes de top 100, qui sont bonnes. Donc ça, c'est intéressant de voir que l'argent est le nerf de la guerre. Donc c'est quand même déjà première règle. En anglais, on dit no free lunch, pas de déjeuner gratuit. Vous voulez une bonne université, il faut payer. Hein. Vous voulez un bon truc, il faut payer. Si vous êtes radin, vous n'avez pas. Voilà. Donc déjà, première chose. Hein. Et d'ailleurs, on peut regarder les dépenses en université. Par exemple, vous voyez que là, c'est très intéressant, en milliers d'euros, la France, c'était en 2001, hein, donc maintenant ça peut améliorer, la France, c'était public, privé, total, la France était 8700 euros, alors évidemment l'essentiel était public quand même, hein, 8700 euros par étudiant par an, alors qu'aux États-Unis, mais là c'était essentiellement privé, où est-ce que sont les États-Unis? Ben là, 36 500. Mais vous aviez quand même, vous voyez, le Danemark qui est tout public, c'était 26 000. Où est la Suède là-dedans? La Suède, pareil, essentiellement public, c'était 20 000, vous voyez, et ça leur donne des bonnes performances quand même. Donc ça, c'est intéressant. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que L'Angleterre dépense peu, dépense très peu, mais l'Angleterre, elle se concentre sur quelques universités parce qu'ils ont des moyens d'allouer à celles qui font de la bonne recherche. Donc l'Angleterre, elle a trouvé un moyen de dépenser peu en moyenne, mais elle les cible sur les bonnes universités parce qu'elle a une méthode pour savoir où sont les bonnes publications. Donc ça, c'est un peu le côté anglais. Ils savent comment... Mais bon, moi, je ne suis pas pour le modèle anglais. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Alors maintenant, ça, c'était l'argent, d'accord ? Et maintenant, je veux parler de la gouvernance. Alors, la gouvernance en Europe, je vais traduire ces slides. En Europe, eh bien, comment on peut savoir la gouvernance ? On envoie des questionnaires. Alors, on envoie des questionnaires et on demande, écoutez, ouais, moi, ça me rappelle un oncle qui voulait acheter, il voulait acheter une maison en Égypte et il y avait des femmes au balcon et il disait, êtes-vous des femmes honnêtes ? C'était terrible. Et le gérant disait, oui, ou êtes-vous des femmes, des personnes convenables ? Enfin, bon, c'était des... Bon, évidemment, les gens ne vont pas dire qu'ils ne sont pas bien. Mais, donc déjà, mais on demande des questions, on demande des questions aux gens sur ce qu'ils font. Donc, est-ce que vous-même, vous décidez de votre curriculum ? Est-ce que vous choisissez vos étudiants ? Est-ce que vous employez les gens de chez vous ? Est-ce que vous employez comme professeur des gens qui étaient étudiants chez vous ? Est-ce qu'il y a de l'endogamie ou pas ? Est-ce que c'est l'État qui vous impose les salaires ou c'est vous qui faites les salaires ? Est-ce que tous les professeurs d'une même classe d'âge sont payés la même chose ou pas ? Quelle est la proportion de fonds qui vous vient de par exemple, de concurrence pour des bourses ? Voyez, comme par exemple ANR ou etc., ou Conseil de recherche européen, etc. Et voilà. Et quelle est la composition du board ? Voyez, quels sont les droits de vote des membres du board ? Est-ce que c'est un board consultatif ? Est-ce que c'est un board décisionnel ? Et donc, on a essayé de savoir plein de choses. Alors, évidemment, on peut dire les mauvais ne répondent pas et les bons répondent. Mais on s'est rendu compte que les performances parmi ceux qui ont répondu reflétaient la moyenne des performances. Donc on s'est dit, on a quand même un échantillon représentatif. Parce que notre peur, c'était ce qu'on appelle un effet de sélection, c'est que les cancres ne répondent pas et que seulement les bons répondent. Évidemment, là, dans ce cas-là, nous n'avons pas. Mais on s'est rendu compte quand même de choses très intéressantes. C'est que, par exemple, vous voyez, par exemple, en termes de budget, d'autonomie budgétaire, par exemple, eh bien, l'Angleterre, c'est très bien. La Suisse, moins. Mais la Suisse, c'est pas bien, mais c'est les cantons. Donc, c'est pas très gênant. Ils n'ont pas beaucoup de données, mais c'est les cantons. Le canton, tu le croises, le type du canton, quand tu vas acheter ton pain. Donc, ça, c'est un des avantages du système suisse. C'est que le type prend une décision, il rencontre ses clients quand il va acheter son pain. Donc, il n'ose plus se montrer dans une boulangerie, s'il ne veut pas. C'est pas le cas chez nous. La Suède a une grande autonomie budgétaire, une grande autonomie budgétaire en Suède. Alors, c'est intéressant, parce que la Suède, on a vu que pratiquement tout l'argent venait du public. Et pourtant, les universités ont une énorme autonomie budgétaire. C'est intéressant. Vous voyez, l'Allemagne n'ont pas d'autonomie budgétaire, pas très peu. Le Danemark, ils ont une grande autonomie budgétaire. Et à nouveau, c'est public. C'est intéressant, ces pays-là. Et alors, après, on peut regarder l'autonomie dans la politique de ressources humaines, dans l'embauche et dans l'autonomie dans les salaires, etc. Et à nouveau, évidemment, le Royaume-Uni vient très loin devant. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de voir les caractéristiques des universités en moyenne dans ces différents pays. Et alors, les États-Unis, je n'avais pas pour les États-Unis, nous savons d'abord pour chaque État américain le pourcentage d'universités privées dans l'État. Alors, évidemment, les universités privées sont plus autonomes que les universités publiques, parce qu'elles sont complètement autonomes, évidemment. Hein. Et puis, au sein des universités publiques, on avait des données sur la liberté ou pas d'achat d'équipement par rapport à l'État, sur l'indépendance budgétaire vis-à-vis de l'État et sur l'autonomie dans la gestion des ressources humaines. Et là, on avait des indices. Donc, on a pu faire des indices d'autonomie, même pour les universités publiques. Alors, voilà ce que ça donne, ces diagrammes. Ça, c'est la corrélation entre, d'une part, Shanghai, et l'autre, c'est l'autonomie des universités. Vous voyez, l'autonomie, on l'a faite à partir des réponses, on a fait un indice d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire ? On a pu faire un indice unique d'autonomie à partir de ces réponses. Alors, pour les États-Unis, on l'a fait à partir de ces trois, et puis l'Europe à partir des réponses aux questionnaires. Et on voit que vraiment, plus c'est autonome, mieux ça marche, quoi. Voilà, l'autonomie, c'est très important. Hein ? C'est l'autonomie dans les États américains, c'est la même chose. On voit que l'autonomie est quand même plutôt corrélée positivement avec des bonnes performances de recherche. Ça, c'est dans les années 50. Ça, c'est l'autonomie récemment. Ça, c'est l'autonomie dans les années 50. Et là, c'est par exemple, ça, c'est le contraire. Quand on a davantage de contrôle du gouvernement sur les salaires, ça veut dire qu'on a moins d'autonomie dans les ressources humaines. Et on voit très clairement une corrélation négative entre la performance et le fait que l'État se mêle de votre politique de salaire. D'accord ? Ça, c'est entre États américains. Là, c'est par exemple... Ça, c'est par exemple, vous avez est-ce que le gouvernement contrôle l'admission des étudiants ou pas ? Et plus ils contrôlent, moins les performances sont bonnes. Et là, c'est très intéressant, c'est la corrélation entre la performance de l'université en matière de recherche et la part du budget qui vient du gouvernement plutôt que de bourses pour lesquelles on candidate. Et là, il y a de la concurrence. Et là, on voit également que plus on se repose sur le gouvernement, moins la performance est bonne. Et là, voilà. Et là, plus au contraire, on se repose sur des bourses concurrentielles, où il y a une concurrence pour ces bourses, plus on joue le jeu de la concurrence, et plus c'est bon. Je ne prône pas la concurrence pour les écoles primaires, secondaires, mais je crois dans les vertus d'une certaine concurrence, mais on peut en parler pour l'université. Je parlerai de ça tout à l'heure. Voilà. Ça, c'était pour les États européens, les pays européens, ça, c'est pour les États américains. On voit toujours que plus les universités se reposent sur des bourses compétitives, plus la performance tend à être bonne. Alors là, la chose très intéressante, simplement, je veux vous montrer, c'est-à-dire que là, vous avez, on regarde dans la performance de l'université, quels sont le poids des différentes choses. Le budget, c'est très important. Budget par étudiant, très important. On met davantage d'argent, ça marche mieux. L'autre chose, c'est que l'autonomie, c'est important, notamment l'autonomie budgétaire, c'est important, l'autonomie de ressources humaines, très important. Vous voyez ? Donc, les deux sont importants. Mais la chose très importante, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement il faut de l'argent, non seulement il faut de l'autonomie, mais les deux se renforcent l'un l'autre. Et on comprend pourquoi. Pourquoi c'est important qu'une université ait de l'autonomie ? Je veux attirer les meilleurs. Je dois pouvoir choisir moi-même les meilleurs. Mais il faut que j'ai les moyens de l'attirer. Si c'est de l'argent et qu'on m'impose et que c'est le CNU qui me dit qui je dois embaucher ou pas, c'est beaucoup moins efficace que si j'ai l'argent ou moi je peux décider qui je veux embaucher ou pas. Donc c'est pas seulement que les deux sont bien ensemble. Vous voyez, elles ont un effet complémentaire. L'autonomie renforce l'effet du financement et le financement renforce l'effet de l'autonomie. C'est pour ça que c'était très important quand il y a eu les universités d'excellence de dire voilà, on peut pas donner l'argent sans changer la gouvernance parce que la gouvernance va améliorer la qualité, l'usage que l'on fera de l'argent. Voilà. Et on revient à cette idée, la gouvernance et l'argent. Et on le retrouve sur l'université. Et on le voit très, très clairement. Alors là, vous le voyez sur les données, c'est les performances européennes. Mais je le vois aussi sur les données américaines. Parce que sur les données américaines, voilà ce que je fais. Je peux regarder, de la même manière que j'avais regardé, je vais instrumenter tout ça par je ramène mon Lister Hill de l'Alabama, là, et oh là là, qu'est-ce que je fais sans lui hein? Viens, reviens, Lister Hill. Alors, je ramène mon copain, là, le clientéliste, et je le ramène pour instrumenter tout ce que vous voulez. Et je fais, voilà, maintenant, j'avais regardé l'effet du financement, et maintenant, je regarde l'effet de la gouvernance. Eh bien, évidemment, j'ai deux mesures de gouvernance. Souvenez-vous, le pourcentage d'universités privées dans l'État à l'année donnée, ou bien si l'université publique est plus autonome, budgétaire, achat d'équipement, ressources humaines. D'accord ? Et là, c'est très intéressant parce que ça montre, c'est qu'en fait, ça montre la chose suivante. Je ne vais pas vous montrer les chiffres, mais ça montre qu'en fait, l'autonomie est importante. Vous voyez, ça, c'est l'autonomie est importante. Donc, et notamment, ça, c'est le financement de recherche et l'autonomie. Ce coefficient est très important. Il vous montre qu'en fait, à nouveau, il y a complémentarité. Plus je suis autonome, plus l'effet d'investir dans l'université est important. Donc, ce que j'avais vu sur les données européennes, je le fais avec une économétrie tout à fait satisfaisante sur les données américaines, avec les mêmes instruments que j'avais utilisés pour faire l'effet de la dépense, simplement. Là, je dis non seulement la dépense importante, mais notamment, d'autant plus, si ça va avec l'autonomie. Et donc, on retrouve sur les données américaines, mais avec de la bonne économétrie, ce que je voyais déjà, avec l'information sur données européennes, vous voyez, mais que je n'avais pas la même économétrie sur les données américaines. Voilà. Alors, le rôle de la concurrence, c'est que là, simplement, quand il y a eu la création, vous savez, à cause de la guerre froide, on a créé la National Science Foundation, la NASA et l'Institut de la Santé. Tout ça, ça a été créé au même moment. Et c'était vraiment un peu une réponse à la guerre froide. Donc, à nouveau, c'était un petit peu l'histoire que je racontais Sedan et Jules Ferry. Sauf que là, ça a été la guerre froide qui a conduit à la création aux États-Unis de trois grosses institutions qui ont soutenu la recherche fondamentale. Et c'est vraiment la guerre froide qui a poussé les États-Unis à faire ça. Donc, vous voyez, l'effet des guerres, mais là, c'était la menace de guerre, évidemment, et pas la guerre. Mais à nouveau, je ne prône pas la guerre, hein. Mais c'est intéressant que ces institutions ont été créées à l'époque de la guerre froide. On peut montrer que la performance des universités, donc ça a augmenté beaucoup les fonds fédéraux à la R&D, et ce qu'on peut montrer, c'est que, en fait, on peut montrer que la concurrence, la concurrence eh bien, augmente l'efficacité de la... ça, c'est ce coefficient-là. Plus de concurrence, quand il y a eu ces institutions et que les gens ont dû se faire la concurrence pour avoir des fonds NSF, des fonds NIH et des fonds NASA, eh bien, ça a décuplé l'effet du financement fédéral, vous voyez. Quelque part, je pouvais dire, moi, je vous donne, mais il faut que vous ayez la moitié. La moitié, vous avez par des fonds et moi, je mets l'autre moitié. Ce genre de politiques peuvent se faire et, évidemment, elles stimulent d'autant plus la bonne gouvernance et l'excellence. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut comprendre, d'où l'importance de l'ANR. Je pense que c'était un drame qu'on ait réduit les dotations de l'ANR en France. Je pense que c'est une politique qu'il ne fallait pas faire. Il fallait au contraire pousser la réforme de la gouvernance et du financement des universités en même temps en soutenant l'ANR, parce que l'ANR était le moyen pour les universités de faire de la concurrence pour les fonds ANR. Ça ne veut pas dire qu'il fallait le faire au détriment du CNRS et des fonds de très long terme, mais je pense que ce n'était pas là qu'il fallait prendre l'argent. Ce n'était pas dans l'ANR qu'il fallait prendre l'argent. Il y avait d'autres sources, je crois beaucoup dans le millefeuille territorial qu'on peut réduire en France. C'était beaucoup plus là qu'il fallait prendre l'argent que dans la pauvre ANR qui déjà n'avait pas beaucoup, qui n'avait pas besoin d'être déshabillée. Elle était déjà très, très déshabillée. Voilà. Donc la conclusion, c'est que la croissance dans les pays avancés bénéficie davantage d'existence d'universités plus performantes, mais la performance repose sur la combinaison entre un bon financement et une bonne gouvernance. Voilà. Il me reste maintenant un quart d'heure. Je voulais simplement vous parler de santé très rapidement. La santé, la croissance. Donc je vous ai dit, la santé, c'est également une source de capital humain. Donc de la même manière que le niveau d'éducation joue sur le niveau de PIB par tête, je peux voir déjà le niveau de santé, le niveau de santé, par exemple les calories, vous voyez, dans les pays plus développés, ça correspond à des pays où les gens prennent par individu plus de calories. Alors évidemment, à nouveau, la causalité peut aller dans les deux sens, parce que les calories font que je suis plus productif et je produis plus, mais également parce que je suis plus riche, je peux mieux nourrir mes habitants. Et donc à nouveau là, c'est une corrélation que je vous montre, ce n'est pas une causalité, d'accord ? Et là, c'est l'espérance de vie. Les pays plus avancés ont une espérance de vie plus élevée, d'accord ? Donc je veux maintenant, parce qu'il me reste un quart d'heure, je veux simplement vous revenir au débat. Vous êtes mort ou pas encore ? Vous n'êtes pas mort ? Bon, c'est génial, vous êtes formidable, vous avez une patience. Vous êtes vraiment formidable, vraiment. Je vais tout de suite vous montrer affichage et je vous montre mode lecture, mode plein écran. Voilà, voilà. Alors, c'est en anglais, mais ce n'est pas grave, parce que je vais vous montrer des figures. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Donc, la santé et la croissance. C'est très normal de penser que la santé, c'est comme l'éducation, d'accord ? Et on a vu déjà que la santé, c'est un facteur de production, hein, d'accord ? On a vu qu'un niveau de santé plus grand vous donne un niveau d'output plus grand. Donc, on pourrait dire une augmentation de la santé devrait vous donner une augmentation plus grande de l'output, de la même manière qu'une augmentation de l'éducation. Mais de la même manière... Ça, c'est l'approche néoclassique, Lucas, mais je peux également avoir l'approche schumpeterienne de dire un meilleur niveau de santé est bon pour la croissance parce que si les gens sont tous malades, ils ne peuvent pas ingurgiter les technologies modernes et faire du rattrapage technologique. Tandis que si tout le monde est en bonne santé, si par exemple personne ne voit rien, on ne peut même pas voir les technologies qui arrivent. Voyez, donc ça, c'est du stock de capital qui vous donne de la croissance, d'accord ? Donc il y a toutes les raisons de savoir que, et d'ailleurs on sait la croissance, c'est bon. Pourquoi c'est bon ? Parce que des gens en bonne santé, je vais traduire ça en français, sont des meilleurs travailleurs. Des gens en bonne santé peuvent travailler plus dur, plus longtemps, penser plus clairement. Et puis également, la santé, quand vous êtes en bonne santé, vous vous éduquez davantage. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous apprenez mieux, mais aussi, vous voulez vous éduquer plus, vous pensez que vous allez vivre plus longtemps. Si je pense que je meurs demain, je ne vais pas suivre un long cycle, vous comprenez ? Si je pense que je vais vivre longtemps, je vais m'éduquer plus longtemps. Donc l'éducation, elle a également un effet qu'elle incite à l'éducation. Donc vous voyez, elle a un effet direct à la santé, mais elle a un effet indirect qui est d'inciter à davantage l'éducation. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, on apprend mieux, et également pour deux raisons. Donc, quand je suis en meilleure santé, je vais vouloir m'éduquer plus, et je vais épargner plus aussi, parce que je vois mes vieux jours davantage, et l'épargne finance l'investissement. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la santé peut être bonne pour la croissance. Voilà. Mais il y a les aspects malthusiens. Et les aspects malthusiens, je reviendrai sur Malthus dans deux séances, je parlerai de Malthus, mais l'aspect malthusien, c'est de dire, vous savez, le gros problème quand il y a la santé, c'est qu'il va y avoir surpopulation, et ça va baisser le PIB par tête. C'est, vous voyez, donc les gens qui ont une vision malthusienne, ils pensent qu'on augmente le PIB par tête en réduisant le dénominateur. Vous voyez, pas en augmentant le numérateur. En gros, enfin, je dis que j'exagère, mais en gros, ils disent, voilà, s'il y a trop de gens, on va être trop nombreux. Vous voyez, ça va être comme dans ce film avec Charlton Heston qui s'appelait Soleil Vert, Soleil Green, voilà. Et alors là, ça va être vraiment ça va être très, très mauvais. Et donc, quelque part, part la santé, c'est pas tellement génial parce qu'on va être trop nombreux et on va tous se gêner, il y aura des effets de congestion, etc. Et donc, c'est pas bien. Quelque part, ils ont une vision comme ça malthusienne de la santé et que voilà. Mais ça, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de Malthus, puisque je ferai le modèle de Malthus en détail, la vision malthusienne. Et je veux le faire parce que c'est un modèle qui peut vous paraître absurde, mais vous allez voir que tous les gens, beaucoup de gens qui font de l'environnement, en fait, sont des Malthusiens. D'accord ? Donc, on peut penser que c'est un modèle absurde, mais en fait, beaucoup de gens y croient. Tout, par exemple, le Greenpeace, c'est des Malthusiens, à fond la caisse. Beaucoup de gens sont Malthusiens. Je ne veux nommer personne, mais beaucoup de gens sont Malthusiens. Il n'y a aucun mal. Malthus, c'est pas le diable. Hein, mais voilà. Bon, on reviendra sur Malthus plus tard. Mais en gros, il y a deux visions. Il y a une de dire la santé, c'est formidable parce qu'une population en bonne santé, elle travaille mieux, elle apprend mieux, elle investit dans l'éducation, elle fait plus d'épargne. Tout ça, c'est bon pour la croissance. L'autre vision, c'est de dire la santé, c'est embêtant parce qu'on est trop nombreux et du coup, c'est la congestion, ça ne marche pas. Le niveau de PIB par tête, on est tous au niveau à manger de bol de riz parce qu'on est trop nombreux, etc. Donc ça, c'est l'autre vision, d'accord, de la surpopulation. Et je parlerai de la transition démographique. Donc, évidemment, vous vous rappelez qu'on a vu quand même que la santé avait déjà un effet sur le développement à travers les institutions. Vous vous souvenez quand même, parce que je veux quand même faire écho d'un cours à un autre, que je vous avais dit, ben voilà, des bonnes conditions de santé, ça n'a peut-être pas un effet direct sur le PIB par tête et la croissance, mais ça peut avoir un effet indirect parce que ça permet de développer de meilleures institutions. Et donc, on a vu qu'il y avait cet effet-là. Mais je ne veux pas passer longtemps, mais je veux en gros vous donner l'idée suivante, et c'est ça l'idée que je veux vous montrer. Je ne veux pas rentrer dans des équations, je vais juste vous montrer la chose suivante. Quand Acemoglu a fait de la santé, je n'ai pas de craie malheureusement, j'ai une craie, c'est la seule fois que j'écrirai. Quand Acemoglu a fait de la santé, il a dit l'augmentation de Y, c'est alpha, l'augmentation de la LE, c'est life expectancy, c'est l'espérance de vie. Vous voyez ce qu'il a fait ? Il a dit comme ça, plus quelque chose. Donc, il a pris un modèle à la Lucas, c'est-à-dire qu'il a dit, moi, je crois dans un monde où c'est l'augmentation de capital humain qui vous donne de la croissance. Et donc, il a dit, la croissance me vient de ça. Et il a regardé, quand il a fait ça, il a vu, et c'était ça ma grosse bagarre avec. C'était terrible, vous savez, il a mis 3 ans à me pardonner. Hein. C'était affreux. Quand je pense à ça, je suis traumatisé, vous savez. Terrible, hein. Voilà. Voilà, il a vu ça. Vous voyez ce qu'il a vu ? Il a vu que si je représentais la croissance en régression de pays, mais contrôlée pour les effets fixes, d'accord, je ne viens pas dans les problèmes, il a mis à droite la croissance de la life expectancy, le delta LE, et il a mis en ordonnée la croissance du PIB par tête, et il a vu que c'était décroissant. Et lui, il a dit, mais je sais pourquoi, c'est un effet malthusien. D'accord ? Donc le résultat qu'il avait était parfaitement juste, seulement il l'a interprété comme ça. Et c'est là qu'il a eu tort, c'est là son erreur, vous voyez ? Parce que, voyez, regardez ce qui se passe. Si maintenant je prends une approche, ça c'est une approche Lucas, vous regardez le delta Y en fonction du delta, ça c'est le delta H si vous voulez, hein ? Le LE c'est H, c'est le delta H. Vous regardez delta Y, alpha, delta H. Mais vous pourriez faire autrement, vous pourriez prendre une approche Nelson-Phelps, qui est de dire comment Y augmente avec le H. Et là, regardez. Ah, ça augmente. Alors, maintenant, vous voulez conseiller les gouvernements en santé. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ah, mais vous savez, ça dépend du vent, comme dirait Fernand Reynaud. Hein, si je suis l'approche de M. Tartampion 1, je trouve que ce faut pas. Et si je suis l'approche de M. Tartampion 2, je trouve qu'il faut. Donc là, on a vu qu'il avait du négatif. Et là, on a vu qu'il avait, hein, j'appelle bêta. Vous embêtez pas le grec, là, je fais un peu de grec. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui me disait, chaque fois qu'on utilise une lettre grecque, on donne 50 euros, 50 centimes à la Grèce, il n'y a plus de problème de dette grecque. Voilà. Et là, on trouve que c'est positif. Oh là là, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Alors, voilà. Eh bien, la vérité, c'est que le bon modèle, c'est un modèle où il fallait les deux. Il fallait que M. Acemoglu, il écrive alpha 1. Ça vous embête que je mette des A1 ? Tiens, je vais mettre des petits A. A1, delta H, delta LE, si vous voulez. Hein, d'accord ? Plus A2, E0, LE0, l'initiale, d'accord ? Il aurait dû mettre les deux trucs, le niveau et l'augmentation. Il aurait dû mettre les deux choses. Et il n'en a mis qu'une. Et alors là, bon, je sais que pour certains, ça va paraître un homme, mais vous allez comprendre l'erreur d'interprétation, parce qu'il a trouvé du négatif, il avait raison. Ce qu'il a trouvé là, vous le reproduisez, vous trouvez comme lui du négatif. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est la raison malthusienne ? Et la réponse est non. Il n'a pas vu d'où ça venait. Et pourquoi il n'a pas vu d'où ça venait ? Parce qu'en fait, il y a ça. Regardez. Je vais vous le trouver là. Regardez. Oh, comme c'est beau. Regardez. C'est la convergence dans les... C'est la convergence dans la... C'est-à-dire que malheureusement, le delta LE, vous voyez, regardez, le delta LE, il se trouve que c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que plus vous êtes... Plus vous partez d'un niveau initial d'espérance de vie, moins votre espérance de vie va augmenter, c'est évident. C'est évident, hein ? Donc, il y a ce phénomène, vous le voyez là. Là, vous avez en abscisse, oh là, j'ai 8 minutes, mais je veux tout faire là, parce que c'est trop beau, ou trop horrible pour vous, je ne sais pas. Vous voyez, regardez, là, plus votre niveau initial, votre LE0 est grand, plus votre delta LE est petit. Et c'est là qu'il a fait l'erreur, parce que, vous voyez, regardez, tout le truc maintenant vient de là. C'est-à-dire que, en fait, le vrai modèle, c'est celui-là. Et voyez, on voit bien, d'ailleurs, la convergence en espérance de vie. Regardez, en 1960, la life expectancy dans les pays en développement était de 44 ans. Elle augmente de 19. Elle augmente de 19%. L'espérance de vie dans les pays développés augmente de 9%. Il y a bien eu un rattrapage partiel, en tout cas, en espérance de vie, plus important que le rattrapage, parce que les vaccins se sont diffusés, le rattrapage en espérance de vie était plus important que le rattrapage en revenu. Et c'est ça qu'ils n'ont pas vu. Parce que si on regarde ça, eux, ils n'ont fait que le delta LE. Alors faisons comme si c'est du delta LE. Qu'est-ce que je fais ? Ça veut dire que LE0, ça veut dire que c'est A sur B moins... LE0, donc j'ai bêta derrière, c'est moins delta LE0 sur B. OK ? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lui, il n'a pas regardé. Acemoglu n'a pas vu ce terme. Mais ce terme, il était là et il était relié comme ça avec le delta LE. Donc, en fait, l'effet de convergence est inclus là-dedans. Vous voyez ? Parce que ça, si je mets tout comme delta LE, ça fait A moins A0 sur B delta LE. Plus des constantes. Donc lui, ce qu'il a estimé, c'est ça. Mais bien sûr que ça pouvait être négatif. Vous voyez qu'il y a un moins là. Mais parce qu'il a mis l'effet de convergence. Vous comprenez ? Il a cru que c'était du malthus. C'était de la convergence qu'il obtenait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous mettez les deux choses, quand vous régressez juste sur, comme a fait Acemoglu, vous trouvez que c'est... quand vous régressez comme lui, vous trouvez que c'est négatif. Quand vous faites juste du Nelson-Feld, vous trouvez que c'est positif. Quand vous régressez sur les deux deviennent positifs. Vous voyez ? Et à ce moment-là, vous rétablissez. C'est très important. Pourquoi c'est important, ça ? Parce que moi, je suis en train de conseiller. Obama veut convaincre les électeurs américains. Est-ce qu'il faut investir en santé ? Eh bien, il peut leur dire, oui, c'est bon pour la croissance. C'est un investissement comme l'éducation. Donc, c'est bon pour vous. C'est-à-dire que vous investissez pour vous-même. Si je suis dans un monde où la santé est mauvaise pour la croissance, mais on sait que c'est quand même bien pour soi, on n'a quand même pas le même poids politique que si on peut dire, non seulement d'abord c'est éthique d'investir dans la santé, mais en plus c'est efficace économiquement, vous créez de la valeur. Et là, c'était un débat très important. Est-ce que la santé crée de la valeur ? Mais oui, au même titre que l'éducation. Et si vous ne l'avez pas vu, monsieur, mes amis, c'est que vous aviez le mauvais modèle, vous vous êtes concentré sur le Lucas, en fait que le bon modèle est une combinaison des deux, et là vous auriez vu tout de suite que la santé était bonne pour l'éducation. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que je vous avais dit au début, il y a ces deux approches. En fait, il faut avoir une approche qui mélange les deux, et c'est empiriquement que vous réalisez l'importance relative des deux choses. Si vous ne prenez qu'un modèle, vous biaisez vous empêchez d'interpréter correctement un résultat. C'était le même résultat, il avait raison, leur régression était juste, le moins 0,80 était juste, mais ils n'ont pas su l'interpréter. Ils l'ont interprété comme un effet malthusien, alors que c'était l'effet de la convergence en espérance de vie. Et là, vous pouvez dire, la santé, M. Obama peut dire, j'ai raison de faire là, parce que c'est bon pour la croissance de mon pays, ça crée de la valeur au même titre que l'éducation. Ancrée, et donc c'est une activité où il faut investir. Voilà, je parlais de ça parce que voilà un débat de politique très important, et vous voyez comment, en ayant une interprétation fausse, on peut donner des recommandations ou disons, qui ne sont pas les bonnes recommandations, ou en tout cas ne pas être... Voilà, je voulais juste... Je dois m'arrêter là, vous n'en pouvez plus de moi, et donc on se verra dans une semaine. Merci.